Radio, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est le moment de retrouver votre rubrique Mon corps, ma vie avec Hicham Ben Abastarji, un gynécologue obstétricien à Casablanca et qui vient de nous rejoindre en studio. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux fausses couches à répétition, hein, ce qu'on appelle aussi maladie abortive. Et avant de vous laisser la parole à Asma, j'invite bien évidemment les auditeurs à nous poser leurs questions, à réagir aussi. C'est sur notre application Lux Radio.
Hicham Ben Abastarji, bonjour.
Bonjour.
Alors nous avons déjà abordé les fausses couches autour de cette table. Aujourd'hui, on discute ensemble de la maladie abortive, c'est-à-dire quand les fausses couches sont fréquentes, quand elles se répètent. À partir de combien d'épisodes d'avortement spontané parle-t-on justement de maladie abortive?
Alors anciennement, c'était à partir de 3 fausses couches consécutives, donc sans grossesse aboutie entre les 3. Et récemment, donc les sociétés savantes ont retenu 2 épisodes de fausses couches.
Ils ont revu ça à la baisse.
On a revu ça à la baisse parce que quand vous dites à une dame, écoutez, il faut attendre 3 fausses couches, la dame, elle ne vous croit pas, elle est perdue. Déjà à la première fausse couche, elle commence à s'inquiéter. Est-ce qu'il y a une
cause? C'est un événement
malheureux. Voilà, c'est ça. Donc c'est à partir de 2 fausses couches qu'on parle de maladie abortive. 2 fausses couches spontanées, consécutives, c'est-à-dire sans grossesse intercurrente.
Il faut aussi que ce soit 3 épisodes anciennement, hein, vous le disiez à l'instant, d'avortement spontané avec le même partenaire. En quoi c'est important que ce soit le même partenaire?
Parce que la grossesse vient de deux sources, je veux dire, un ovule et un capital génétique féminin et masculin. Donc, des fois, il y a des anomalies de sperme qui vont entraîner donc des fausses couches. Donc, le paramètre masculin est important pour cela parce que l'ovaire, et c'est aussi lié à l'âge, pourquoi? En fait, j'anticipe vos autres questions. Mais pourquoi on fait une fausse couche? Parce qu'en fait, la construction d'un petit bonhomme, c'est quelque chose, c'est la multiplication de plusieurs milliards de cellules, de divisions, ce qu'on appelle des mitoses. Et au cours de ces divisions cellulaires, il faut produire de l'ADN et il peut très bien y avoir des erreurs. Et donc, quand il y a des anomalies du sperme du mari ou de l'ovule, eh ben des fois ils ont les capacités de correction de ces erreurs ne sont pas bonnes et donc ça entraîne des fausses couches. Donc s'il y a un mauvais sperme, ça augmente le risque de fausses couches.
En tout cas, cette situation concernerait 1,5% des femmes. Une petite part serait due à la malchance, hein, par multiplication des probabilités de fausses couches. Pour le reste, en revanche, il s'agit d'une situation pathologique que certains spécialistes qualifient de maladie abortive, c'est ce qu'on disait. Quelles sont, Hicham Ben Abastarji, les principales causes de cette maladie et quels sont les examens qui vont permettre de découvrir l'étiologie des fausses couches?
Question très, très, très large et question très... Je ne dirais pas les principales causes, je dirais les principales familles.
On va approfondir point par point.
Familles de causes. Mm-hmm. Alors déjà, il faudrait dire que la fausse couche spontanée est quelque chose de normal. Mm-hmm. C'est-à-dire que les gens ne savent pas, mais je ne parle pas de maladie abortive, mais 50% des grossesses tombent avant même qu'on le sache. Mm-hmm. Parce que justement, il y a des erreurs et donc elles sont éliminées dès le début avec les règles. Après, il y a environ 10 à 15% de grossesses cliniques. La dame est enceinte, elle est contente, elle le sait. Et patatras, ça se termine rapidement par une fausse couche. Après, donc, quand on fait plusieurs fausses couches, c'est là qu'on parle de maladie abortive. Grosso modo, il y a 5 grandes causes. Il y a bien sûr les maladies génétiques et les maladies chromosomiques. Il y a une petite différence. Soit des erreurs des chromosomes en plus ou en moins. Par exemple, la trisomie 21, ou trisomie 13, 18, il y a plein de trisomies, c'est-à-dire un chromosome en plus ou en moins.
En moins.
D'accord. Et aussi, il y a des maladies géniques. Ce n'est pas tout un chromosome qui est en plus ou qui est en moins, mais c'est un gène qui est mauvais.
D'accord.
Et donc, et les gènes, il y a des milliers de gènes. Donc, il y a les maladies, je dirais, génétiques. Il y a les causes de l'hémostase, c'est-à-dire de la coagulation sanguine. Des fois, c'est microscopique, mais des fois, il y a des microthrombies, des petites coagulations qui fait que la petite goutte de sang qui va arriver pour nourrir cet œuf n'arrive pas parce qu'il y a eu des thrombus vasculaires, donc des caillots sanguins. Et donc, il y a des maladies de l'hémostase, la coagulation sanguine, qui peuvent entraîner ça. Il y a des causes immunitaires. Les gens ne le savent pas, mais c'est un miracle. La grossesse est un miracle parce que c'est aussi quelque chose qui est étranger à soi, qui est à 50% étranger à soi. Et le bon Dieu a bien fait les choses, c'est-à-dire qu'il y a une tolérance immunitaire et qu'on accepte, que le corps de la femme va accepter quelque chose qui est à 50% étranger. Il y a une tolérance immunitaire. Et des fois, il y a des désordres immunitaires, des thyroïdies, des inflammations, auto-immune, on parle d'auto-immunité, et donc qui va entraîner ce rejet de cet œuf. Après, il y a des causes infectieuses, il y a la listeria, c'est une maladie qui peut donner ça, il y a d'autres infections qui peuvent donner des fausses couches, il y a des causes, aussi malformatives, malformation de l'utérus.
Anatomique, alors.
Anatomique, tout à fait, soit polype, soit fibrome, soit, je vous dis, malformation utérine avec une cloison, qui peuvent donner aussi ça.
Donc c'est pour donc, ça. Par exemple, si on a un fibrome utérin qui a été mal soigné, donc ça peut effectivement donner lieu à.
C'est une grande question. Faut-il opérer le fibrome
avant,
au risque d'entraîner aussi des accolements qui pourraient entraîner une infertilité, ou faudrait-il laisser ce fibrome et qui va pas faire de fausse couche? C'est vraiment de la chance et ça dépend de la situation, ça dépend. Il n'y a pas de réponse précise. Il faut enlever le fibrome, il faut pas l'enlever. Mais par exemple, si vous avez dans une maladie abortive et que vous trouvez.
Est-ce que vous avez eu des cas concrets?
Oui. Alors, je dirais même mieux. J'ai plein de grossesses avec des fibromes. C'est-à-dire que le fibrome n'est pas toujours la cause de cette maladie abortive.
D'accord.
Vous voyez, vous faites une césarienne pour une dame, vous ne savez même pas qu'elle a un fibrome, attaque, vous découvrez plusieurs fibromes. Donc le fibrome n'est pas toujours la cause. Mais maintenant, une dame qui fait une maladie abortive, qui fait un fibrome, qui est au niveau de type 2 ou de type 3, c'est-à-dire au niveau de la cavité utérine, et qu'elle a déjà fait des fausses couches, oui, il faudrait aller enlever le fibrome. Mais tous les fibromes ne sont pas responsables de fausses couches.
Entendu. Est-ce que les curetages à répétition peuvent être à l'origine de la maladie abortive?
Je ne pense pas, c'est-à-dire qu'ils entraîneraient plus une infertilité. Des curetages à répétition ou tout simplement une fausse couche où vous avez ce qu'on appelle la rétention trophoblastique, la rétention de ce qui va donner le placenta, va donner plutôt des synéchies, c'est-à-dire des accolements qui vont empêcher donc l'anidation.
C'est une altération en fait
de l'endomètre.
De l'endomètre.
Et si vous voulez, elle va plus entraîner, je vous dis, un problème d'infertilité et non pas de fausse couche.
D'accord.
Mais maintenant, je vous dis, il y a d'autres causes. Par exemple, une endométrite chronique, une inflammation chronique de l'endomètre, ça peut entraîner de la synéchie, mais aussi des fausses couches.
On parle aussi d'insuffisance ovarienne prématurée comme cause de fausses couches à répétition. Qu'est-ce que c'est?
Alors, l'insuffisance ovarienne prématurée, c'est un mot gentil pour dire ménopause qui approche. Au lieu de parler de sourd, on parle de malintendant.
Donc, c'est la réserve, en fait.
C'est la réserve ovarienne qui est diminuée. Et je crois qu'on en a déjà parlé, mais c'est important de le réinsister. Les fausses couches augmentent avec l'âge. C'est-à-dire si votre chance de faire une fausse couche à 20 ans, je ne connais pas le chiffre, mais elle est de 1 pour 1000, vous avez à 40 ans, vous avez 20% ou 30% de fausses couches. Parce que la qualité de votre œuf n'est pas bonne. La réserve ovarienne donne un signal par rapport à la quantité, mais donc l'âge est un paramètre de la qualité. C'est-à-dire que cet ovocyte qui a été bloqué avant d'être ovulé pendant 40 ans, eh ben il n'a peut-être pas la qualité, la réserve énergétique de corriger les erreurs qui peuvent y avoir. Alors que le même ovocyte 20 ans plus tôt, il aurait peut-être donné une grossesse. Nonobstant les anomalies du sperme qu'il peut y avoir, je veux dire, encore
évidemment.
Une fois. Donc plus, et c'est pour ça que je dis c'est important, plus on augmente dans l'âge, et plus le nombre de fausses couches augmente.
Hicham Ben Abastahaji, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. Je vous demandais tout à l'heure une de mes questions assez larges. Quelles sont les principales causes de cette... quels sont les examens qui vont permettre de découvrir l'étiologie justement des fausses couches?
Ben justement, on va chercher des examens. Mais en fonction de ces familles. Alors il y a les examens généraux. On va commencer d'abord par une NFS, un groupage, s'assurer qu'il n'y a pas d'anémie. L'anémie sévère peut être responsable de fausses couches. Un problème de thyroïdie, d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie, ça peut le donner. Une insuffisance rénale, donc des causes générales. Le groupage, alors par exemple dans les causes hémostatiques ou immunitaires, il y a des fois des agglutinines irrégulières, c'est-à-dire des auto-anticorps contre les groupes sanguins qui pourraient donner des fausses couches par une cause immunitaire. Donc on va faire un bilan d'hémostase, s'assurer que la coagulation sanguine est tout à fait normale. Mais dans les anomalies, par exemple, de la coagulation sanguine, il y a des petites choses, mutation de facteur 5 Leiden, déficit en protéine S, déficit en protéine C. Il y a beaucoup de choses dans le bilan d'hémostase, des petites mutations qui pourraient donner ces causes hémostatiques. Dans les causes mécaniques, eh ben, on va s'assurer, on va faire bien sûr une échographie, on va s'assurer qu'il n'y a pas de cloison utérine, parce que la cloison utérine, c'est une malformation utérine qui va empêcher une bonne nidation et donc empêcher une bonne nutrition de cet œuf qui démarre et donc peut entraîner la fausse couche.
Et du côté de l'homme.
Pardon, attendez. Pardon, pardon, par la cloison utérine, ça donne plutôt des fausses couches tardives. C'est-à-dire qu'en fait,
semaine.
Bon, après le deuxième trimestre. Pourquoi? Parce que c'est un œuf qui va se développer, mais comme l'utérus est mal formé, l'utérus est petit, il n'arrive pas à avoir une expansion, et donc ça va donner des fausses couches. Dans les fausses couches tardives aussi, il y a ce qu'on appelle des fois les incontinences du col, la béance cervicale. C'est-à-dire que votre utérus n'arrive pas à tenir, et ça donne plus des fausses couches du deuxième trimestre.
D'accord.
Et non pas des fausses couches du premier trimestre. Du côté de l'homme, bien sûr, un spermogramme, c'est quelque chose qu'on va explorer pour voir, pour nous assurer que le spermogramme est normal, qu'il n'y a pas la tératospermie, c'est-à-dire le nombre de formes anormales, n'est pas supérieur à 95%, qu'il y a au moins 5% de spermatozoïdes normaux. Il y a quelque chose qu'on retient, en fait, même dans la fécondation, il y a une sélection naturelle, c'est-à-dire que c'est les spermatozoïdes les plus performants, les plus normaux, qui arrive à faire le chemin du vagin jusqu'à l'ovule. Et c'est presque de la terre à la lune pour un spermatozoïde. La taille, les 10 cm qui montent, cela, c'est presque de la terre à la lune. Donc c'est vraiment les plus forts et les plus normaux, les plus élitistes qui donnent. Mais malgré ça, il peut y avoir des erreurs. Donc on va s'assurer que le sperme est normal. Après, je vous dis, les causes infectieuses, on peut rechercher, je vous dis, une listeria, essayer de la traiter. Et les causes immunitaires, eh ben, on va rechercher aussi des anticorps. Il y a énormément de causes, et donc il faut chercher, mais grosso modo, on est dans la grande famille. Dans les causes génétiques, alors on va, classiquement, on va aller rechercher les causes chromosomiques, c'est-à-dire on va faire ce qu'on appelle un karyotype, et on va voir est-ce qu'il y a un chromosome en plus ou en moins. Mais des fois, c'est accessible, je veux dire, un karyotype, ça coûte 1200 dirhams. Mais des fois, il y a des problèmes de génique. Je vous dis, c'est pas un chromosome en plus ou en moins, c'est un gène qui est en plus ou anormal. Et là, il y a des milliers de causes. Et même si vous faites ce qu'on appelle un karyotype moléculaire, c'est-à-dire rechercher des anomalies génétiques, pas des chromosomes, ça coûte cher, ça coûte dans les 10 000 dirhams. Et même ça, eh ben, vous n'êtes pas sûr de trouver une anomalie qui va le donner. Mais il y a... C'est pour ça qu'on est un peu déçu. On fait une dizaine d'examens généraux pour rechercher ces causes, mais des fois, on ne trouve pas la cause.
Justement, j'allais vous poser la question de savoir... dans un des articles lus sur le sujet, on explique que dans la moitié des cas, aucune cause n'est retrouvée. Ma question est de savoir comment on va soigner cette maladie si on ne trouve pas de cause.
Alors, on va essayer de chercher les codes. C'est une très bonne réflexion. Justement, on va essayer de donner... Alors, on va donner de l'espoir. Il faut essayer. Je veux dire, il y a des maladies abortives. On va donner des thérapeutiques qui vont marcher, qui marchent dans certains cas. Par exemple, on va donner de l'aspirine à faible dose, parce que l'aspirine, en tant qu'anticoagulant, ça permet de fluidifier un peu le sang, et donc ça permettrait... dans certaines causes hémostatiques d'améliorer donc la nutrition de cet œuf. Dans les causes, il y a ce qu'on appelle le syndrome des antiphospholipides. C'est un syndrome assez fréquent, une cause assez fréquente, la SAPL. Et donc, on va faire un bilan biologique à la recherche d'un SAPL. Dans les causes, par exemple, si la femme a aussi une maladie auto-immune, comme ce qu'on appelle le lupus, c'est une maladie auto-immune assez fréquente qui peut donner des fausses couches. Donc, si on a un SAPL, donc un syndrome des anticorps antiphospholipides, on va donner, par exemple, de l'aspirine, on va donner ce qu'on appelle des héparines de bas poids moléculaire qui vont aussi fluidifier le sang, donc pour permettre une meilleure cause, une meilleure nutrition. S'il y a des causes auto-immunes, par exemple un lupus qui fait des fausses couches, le lupus fait souvent des fausses couches, on va se permettre de donner des corticoïdes à faible dose, mais c'est pour essayer donc de diminuer ce côté auto-immunité.
Donc même si on trouve pas une cause précise, on donne quand même.
Alors c'est ça le grand problème. Bon, donner de l'aspirine, alors, et c'est fait d'ailleurs, c'est fait à tort parce que les études je veux dire, on essaie de suivre l'évidence based medicine, et c'est-à-dire on va voir les études, qu'est-ce qu'elles nous donnent. Et on nous dit par exemple dans le SAP, dans le SAPL, dans le corps, dans le lupus, oui, il faut donner des HBPM, des heparines de bas poids moléculaire, il faut donner de l'aspirine. Dans le lupus, il faut donner des corticoïdes, ça donne des résultats. Dans les autres, dans les fausses couches inexpliquées, il n'y a rien, malheureusement, il n'y a rien qui ne fait, qui a prouvé son efficacité. Mais d'accord, ne rien donner à la dame, c'est difficile. Et elle n'arrive pas à accepter cela. Et donc, on va donner, à la rigueur, des médicaments. C'est souvent fait.
Pour faire travailler l'effet placebo, quoi.
Tout à fait, mais il peut aussi y avoir un effet. C'est-à-dire, par exemple, on va donner de l'aspirine à faible dose, pas à grande dose, mais je vous dis à 100 mg jour, parce que on donne quelque chose, il y a un effet placebo, et même s'il y a une cause d'hémostatique, eh bien, peut-être que ça la corrigerait. Et surtout, parce qu'il n'y a pas de grand risque à prendre de l'aspirine à petite dose. Et donc, c'est pour ça que, généralement, on donne ça, même si je vous dis, ce n'est pas prouvé. Mais ce n'est pas toujours évident.
D'accord. Merci beaucoup, Richard Malabastage, pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. Sachez aussi